7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI, 7 milliards de voisins en direct du lundi au vendredi. Quelle différence de salaire entre les hommes et les femmes aujourd'hui? Quelle est la situation dans votre pays? Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On en discute avec vous, Rachel Silvera. Vous êtes économiste, vous publiez Un quart en moins. Des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaire. Et Christiane Robichon, à part le fait d'être cadre dans une grande entreprise d'informatique qui vous donne beaucoup de possibilités d'observer, mais vous êtes aussi présidente de la Fédération française Business and Professional Women, une organisation internationale et qui est à l'origine de la journée qui aura bientôt lieu le 7 avril prochain, la journée internationale de l'égalité salariale. C'est le moment ou jamais de nous appeler, les voisines, surtout si vous avez des questions ou des témoignages. Beaucoup de voisins qui disent non, chez nous, il n'y a absolument pas de problème. En général, ce sont des voisins, je ne sais pas pourquoi. Ils disent non, il n'y a absolument aucun problème. C'est exactement la même chose entre les hommes et les femmes. Amos, par exemple, qui nous dit cette inégalité de salaire n'existe pas entre les hommes et les femmes. Le salaire d'une personne se détermine en fonction de son diplôme et de son lieu de service et de travail. Voilà, ça c'est
Sur le papier. Oui,
c'est sur le papier.
Alors, une règle qui ne s'explique, qui
on
s'applique pas.
On accueille un voisin qui est Mahama Tanabe, qui nous appelle en France. Hein. Bonjour. En Allemagne, pardon. Bonjour, Mahama Tanabe.
Bonjour Emmanuel, c'est vraiment intéressant, même le titre même c'est intéressant, 7 milliards de voisins.
Vous êtes en Allemagne, hein. Soyez le bienvenu, vous êtes à Dresde, hein. C'est bien ça.
Je suis à Dresde.
Ouais. On vous écoute.
Et puis, je pense que la dame a bien tracé les choses. Elle a dit que auparavant que c'est un petit problème de l'Ouest. Et moi, hier, j'ai envoyé une mail, un petit mail, peut-être vous ne voulez pas entendre. Vous avez dit, Madame Emmanuel, qu'il faut changer les lois, peut-être. Et moi, j'ai répliqué, non, il ne faut pas changer les lois, mais il faut changer un régime. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, j'ai fait l'Ukraine plus de 10 ans, j'ai fait la Tchéquie.
D'accord,
et
ouais.
Après, et j'ai jamais rencontré cette différence de salaire.
C'est ça. Donc vous dites, en fait, c'est un problème typiquement d'Europe de l'Ouest. Hein. Et d'ailleurs, vous êtes à Dresde, dans l'ex-Allemagne de l'Est, hein, si je me trompe pas. Alors, je sais pas, Rachel Silvera ou Christiane Robichon, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, merci pour cet appel à Mahama Tanabe. Vous soulevez une question intéressante. C'est vrai que dans l'ex-bloc soviétique, on a toujours dit que les régimes communistes favorisaient le travail des femmes, l'accès à l'éducation, etc. Qu'en est-il aujourd'hui et même dans le passé, d'ailleurs, Rachel Silvera?
Alors, c'est très difficile. Moi, je n'ai pas étudié tous ces pays. Il est certain que, effectivement, dans ces systèmes, il y avait une place de l'égalité, une place des femmes qui était considérable. On pense aussi au mode d'accueil, par exemple, hein,
des modes de garde pour les enfants dans l'ex-Allemagne de l'Est, ouais.
Voilà, qui était mis en avant et sur lequel on est revenu. Donc, c'est sûr que, en se séparant de ces régimes, on a peut-être perdu aussi une partie de l'égalité.
Culturellement, il n'y avait pas cette culpabilisation des femmes qui travaillent à temps plein et qui laissaient leurs enfants gardés par d'autres femmes.
Jusqu'où il faut aller, c'était quasiment une obligation. Donc, il faut y réfléchir. Est-ce que ça doit être pensé de cette façon-là? Chez nous, on a peut-être cette idée de choix. Moi, j'y crois pas tellement. Hein. Je pense que c'est souvent sous contrainte qu'on fait ces choix. Mais, en tout cas, dans ces régimes, hommes et femmes étaient, de ce point de vue-là, en totale symétrie. Ceci dit, aujourd'hui, les écarts de salaire dans ces pays sont parfois faibles. Aussi parce que, statistiquement, il y a un retour dans certains de ces pays sur le fait pour ces femmes de travailler, justement, on remet en cause, dans un certain nombre de ces pays, le fait que les femmes travaillent, comme en Pologne, en Roumanie. On s'aperçoit que, à nouveau, c'est comme s'il fallait choisir entre maternité et travail.
Donc un retour en arrière, alors.
Donc c'est un retour en arrière.
Je confirme, c'est effectivement, nous, la position que nous remontent les présidentes de ces pays-là. Et le constat était que, quand ils étaient dans un régime communiste, il n'y avait pas d'écart de salaire. Le travail faisait partie qu'on soit homme ou femme, accès aux mêmes fonctions et autres. Et aujourd'hui, il y a eu un choc violent pour les femmes, avec des règles économiques qui ont changé, avec justement des établissements qui n'étaient pas forcément prêts à les aider par rapport à la maternité, la garde des enfants. Et aujourd'hui, nous, on constate que dans ces pays-là, que ce soit en Pologne, en Estonie ou autre, là, l'écart de salaire, en Estonie typiquement, on parle de plus de 30%. Donc, il y a eu vraiment deux choses. Des règles qui ont été changées.
Là aussi, en comptant les temps partiels, hein, bien sûr, évidemment, mais reste à savoir s'ils sont choisis. Hein, parce que, bien évidemment, bon, une femme qui a envie d'élever ses enfants, il n'est pas question de remettre en cause ce droit-là, on s'en doute. Je voudrais vous lire d'autres messages, celui d'Evelyne qui est à Maroua, dans le nord du Cameroun. Les femmes sont moins payées pour un même boulot parce qu'elles sont censées arrondir leur fin de mois avec le salaire de leur mari. On estime que l'homme a plus de charges qu'une femme et par conséquent, ils ne peuvent avoir le même salaire. On l'a longtemps entendu, ça aussi,
alors,
en Europe.
Oui, justement, moi je me suis amusée.
Elle a un mari qui gagne très bien sa vie, voilà.
Voilà, hein, de revenir sur cette histoire du salaire d'appoint qui colle encore à l'image que l'on a des salaires des femmes. Rappelez qu'en France, et c'est vrai dans beaucoup de pays européens, il y avait un principe du salaire féminin. On prévoyait, en France jusqu'en 1946, c'est somme toute pas si loin, on prévoyait un abattement sur le salaire des femmes à poste égal. On pensait que c'était normal, parce qu'en fait, quand on regarde les théories, eh bien, quand on essayait d'expliquer le salaire des femmes, on s'appuyait sur les besoins qu'elles pouvaient avoir. Lorsqu'on parlait du salaire des hommes, on faisait référence au travail. Alors donc, même pour le même boulot, eh bien, on prenait pas les mêmes critères en compte. Il y avait cette idée, en plus, pour les hommes, que le salaire devait être familial.
Est-ce que aujourd'hui, il y a encore des restes culturels de ce raisonnement-là dans les entretiens avec les DRH, quand on négocie son salaire, une femme qui devient, par exemple, chef de famille parce qu'elle divorce et qu'elle a des enfants à charge, est-ce qu'elle arrive mieux à négocier son salaire, Christiane Robichon, par exemple?
Alors, dans les entretiens de salaire, dans les entretiens d'embauche aujourd'hui, ce qui reste clair, c'est que la maternité et le fait d'avoir des enfants est encore l'obstacle majeur à l'évolution de la carrière. Il y a juste un élément dont il faut être parfaitement conscient, c'est qu'à partir du moment où une femme a des enfants, l'entreprise pense à sa place. L'entreprise privée pense qu'elle sera moins disponible, pense qu'elle sera moins motivée pour avancer dans sa carrière.
Mais dans le secteur public, on est plus attentif à une forme de justice sociale. Une femme qui se retrouve chef de famille avec des enfants à charge, est-ce que là, on n'est pas plus attentif à cet argument-là, finalement, que du coup, là, elle peut mieux négocier son salaire qu'autrefois lorsqu'elle était mariée à un homme qui gagnait bien sa vie?
Je pense que même dans le secteur, même dans le secteur public, ce phénomène persiste. C'est vraiment les clichés de la maternité qui fait que on pense qu'elle sera plus souvent absente. Donc les promotions, alors dans la fonction publique, c'est vrai que vous avancez en fonction du nombre d'années et d'un certain nombre de critères, mais néanmoins il y a des notations. Aujourd'hui, le secteur public fait appel des notations et les femmes, de ce facto, de par la maternité, se retrouvent à nouveau pénalisées. Et il faut vraiment qu'il y ait une prise de conscience. Enfin, cette journée de l'égalité salariale, j'en discutais avec Rachel avant l'émission, c'est de s'apercevoir que les gens soient conscients. Quand vous interviewez, quand vous parlez aux gens dans la rue, vous demandez quelle est la perception de l'écart salarial, personne ne va à plus de 10%, alors que la réalité, on est nettement au-dessus de 20, plutôt entre 20 et 30%.
Vous nous appelez au 33 84 22 71 71. On aimerait bien avoir des voisines qui téléphonent. Allez, décidez-vous, il nous reste pas beaucoup de temps. L'émission passe très vite. La parole est à Alassane qui nous appelle de Ouagadougou, Burkina Faso. Bonjour Alassane.
Bonjour Emmanuel.
Soyez le bienvenu, on vous écoute.
D'accord. Bon, de mon point de vue, je pense que la différence qu'on a posée en ce qui concerne justement le salaire des hommes et des femmes, notamment dans la dynamique selon laquelle il faut que les femmes travaillent 59 jours de plus pour pouvoir donc avoir le même niveau de salaire.
À la fin de l'année, oui. En Europe.
Voilà, je pense donc que ce genre de comparaison n'aura un sens que si effectivement on prend en compte la productivité des femmes. Parce que en général, en Afrique ici, la productivité des hommes est plus élevée que celle des femmes. Et aussi,
qu'est-ce que vous entendez, Alassane ? Oui, allez-y, poursuivez, Alassane.
Voilà, donc je disais, là, c'est une moyenne. Si effectivement, on arrivait à identifier les femmes, effectivement, qui travaillent plus que les hommes, on arrive à faire des comparaisons directes entre justement ces femmes et les hommes, en fait, par rapport auxquels elles doivent travailler plus pour avoir le même niveau de salaire.
Qu'est-ce que vous entendez par productivité, Alassane ? Vous pouvez nous donner un exemple concret ?
Par exemple, simplement, si je prends une heure de travail par rapport à un travail quelconque, ce qu'un homme est supposé abattre durant ces une heure-là, si c'est plus que ce que la femme doit faire, en ce moment, naturellement, elle va travailler plus que l'homme pour pouvoir avoir justement le même niveau de résultat.
Mais attendez, une heure de travail pour un homme, pour une femme, vous pensez à quoi comme métier où un homme abat plus de travail? Bûcheron?
Non, là, je fais pas ce genre de comparaison. Je me suis dans la logique selon laquelle vous avez juste une moyenne. Je vais dire que pour que la moyenne soit plus intéressante, il faut aller au-delà dans l'analyse.
D'accord. Je suis pas sûre de vous avoir bien comprise, Alassane. Hein. Bon, vous parlez de productivité. C'est clair que si on revient au nombre d'heures travaillées, il est clair qu'on n'a pas les écarts que vous avez cités au début de l'émission, hein, Rachel Silvera.
Oui, c'est ça.
Si on revient au nombre d'heures travaillées. Mais vous dites qu'il y a une injustice dans le nombre d'heures travaillées parce que les femmes, finalement, ont moins accès à l'emploi temps plein, etc. Je voudrais qu'on parle un peu des solutions. Merci, Alassane, hein, pour votre intervention. Et bien sûr, vous continuez de nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Aujourd'hui, on est dans un monde de plus en plus globalisé, de plus en plus judiciarisé. Au Royaume-Uni, les plaintes se multiplient pour discrimination salariale en raison du sexe. Avec quel résultat? Je ne sais pas qui veut répondre, Christiane Robichon ou Rachel Silvera, sur ces questions-là.
Alors, au Royaume-Uni, c'est une tradition hein, que d'avoir des plaintes qui sont accompagnées souvent par les syndicats. Hein. Il y a toujours eu cette tradition-là, parce qu'aussi, il y a peu de négociations sur les salaires au niveau collectif. C'est aussi la place des syndicats qui joue un rôle différent, du coup. Hein. Chez nous, c'est moins le cas. Les plaintes sont d'abord individuelles, hein, sont encore faibles dans ce domaine. Hein. On a plus de
parce qu'il y a plus d'accords d'entreprise aussi en France.
Alors, c'est aussi parce qu'il y a plus d'accords, mais peu traitent de l'égalité. Et notamment l'égalité salariale. La loi le prévoit encore une fois, mais on est loin du compte. Beaucoup d'entreprises ne jouent pas le jeu.
Comment ça se passe en France? Que font les syndicats? Est-ce que par hasard, ils utilisent parfois ce qu'on appelle le droit de substitution, c'est-à-dire de porter plainte à la place d'une salariée qui ne se sent pas très confortable à l'idée de se lancer dans un tel combat pour démontrer son inégalité dont elle est victime?
Ils devraient le faire davantage. Ils ne le font pas forcément. Pour l'instant, il y a quelques cas hein, où ça se présente ainsi. Mais c'est souvent dans le domaine de la discrimination syndicale qu'ils se débrouillent mieux, hein, et c'est un peu logique. Ils défendent leur mandant. Il commence à y avoir des cas, justement,
Délégués du personnel qui sont pris en charge par un syndicat.
Voilà.
Mais qui sont victimes de discrimination sexuelle ou de discrimination
Alors là,
en
tant que syndicat.
Ah oui.
Hein, c'est-à-dire que, mais parce que là, on a on peut décrypter et repérer la discrimination très facilement. Parce que c'est le moment de la prise d'un mandat qui fait la différence. Quand on est une femme, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce que me disent certains délégués syndicaux, dont François Clair, hein, qui a mis au point une méthode. C'est compliqué pour les femmes, parce que est-ce que c'est le fait d'être femme? Est-ce que c'est le moment d'une maternité? Est-ce que c'est la prise d'un temps partiel? Est-ce que c'est un congé parental? Il y a un flou. Et par rapport à l'auditeur qui parle de la productivité, on ne sait pas réellement mesurer la productivité. Dire qu'une heure de travail d'une femme par rapport à une heure de travail d'un homme serait moindre, ça ne peut pas être prouvé comme ça. C'est un a priori statistique général.
Lorsqu'une salariée constate qu'il y a quelque chose qui cloche par rapport à ses collègues, masculin dans sa carrière, qu'est-ce que vous conseillez de faire, Christiane Robichon?
Effectivement, aujourd'hui, il faut se rapprocher donc dans l'entreprise des représentants syndicaux, aller voir les DRH, et ensuite, il faut savoir que des associations comme la nôtre, donc on lutte contre les discriminations faites aux femmes, donc on peut aider ces femmes à bâtir leur dossier, et surtout, il faut qu'elles sachent qu'aujourd'hui, il y a une institution qui s'appelle le Défenseur des droits, qui a des délégués qui a des délégués un petit peu partout et qui peut les aider. Mais je crois que surtout, encore une fois, il faut que les femmes s'expriment et ne restent pas, n'acceptent pas de manière à ces solutions, ces régressions, parce que elles ne peuvent pas rester devant des injustices sans les faire valoir. Et les syndicats, effectivement, les représentants syndicats dans les entreprises sont censés prendre en charge et aider ces femmes, mais aujourd'hui, la réalité dans l'entreprise, dans le terrain, autant les centrales syndicales aujourd'hui, effectivement, travaillent toutes sur ce problématique d'inégalité salariale, dans les entreprises, on a encore, malheureusement, force est de constater que ce n'est pas leur priorité. Absolument pas.
Oui, alors.
Oui, Rachel Silvera.
C'est très compliqué. Les droits syndicaux dans nos pays sont, enfin dans notre pays, ne sont pas suffisants. Et ce que disent les délégués, c'est qu'ils ont à négocier tellement de sujets que ça devient difficile. Mais c'est vrai qu'ils ne font pas toujours la priorité et qu'ils doivent aujourd'hui prendre bien en compte cette dimension. Il faudrait que les femmes se syndiquent elles-mêmes davantage pour mieux aussi se représenter.
Alors, je crois que ça passe par là. Pays où il n'y a pas vraiment de culture syndicale, mais il y a des actions en justice qui sont possibles. Le premier conseil que vous donnez, Rachel Silvera, parce que vous avez épluché énormément de dossiers judiciaires qui se sont montés sur ces questions-là d'inégalité de salaire, c'est de comparer les salaires. Comment fait une femme pour comparer son salaire avec celui de ses collègues masculins? Comment accéder à l'information dans une entreprise privée où les salaires sont négociés de gré à gré, par exemple?
C'est ça. Alors, il y a toute une, un tabou en France pour parler de son salaire, donc c'est très difficile. Dans les cas que j'ai étudiés, certaines ont été voir leurs collègues directement et ils ont accepté de se confier. Alors, de montrer leur fiche de paye. C'est pas toujours le cas. Il faut parfois effectivement passer par l'inspection du travail, demander aussi à son délégué, puisque lui peut consulter les registres du personnel, il peut y avoir accès. Donc il y a des démarches à faire très simples.
33 1 84 22 71 71. Nous accueillons Chantal qui nous appelle en région parisienne. Bonjour.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors, je voulais intervenir. Je précise que j'ai été formatrice pendant plus de 20 ans dans l'aide à l'insertion ou la réinsertion professionnelle homme-femme, que ce soit des étudiants, des demandeurs d'emploi de tous âges, toutes couleurs, tous métiers. Il y a un argument que j'ai régulièrement proposé et que je suggère aux femmes et aux journalistes et autres de rappeler, c'est qu'il n'y aurait aucun homme sur Terre si une femme un jour ne les avait pas portées. Et j'ai des femmes à qui j'ai suggéré d'oser poser cette question dans un entretien de recrutement quand on commençait à les titiller sur leur maternité, de regarder droit le monsieur dans les yeux.
D'accord.
Et ça permet à un moment donné de déjà dire à ces messieurs, sans nous, vous ne seriez pas
bon,
sur
alors,
Terre.
Si on revient à la création du monde, là, il nous faudra plusieurs heures. Merci en tout cas pour ce témoignage et cette analyse. C'est bien vu, Chantal, ceci dit. Aujourd'hui, en France, on a une multiplication des contrôles, une multiplication des sanctions ces dernières années, notamment de l'inspection du travail. Pourquoi on n'a pas, ça devait figurer dans la loi de janvier 2014 sur l'égalité femmes-hommes, les actions de groupe, où ça permet à des femmes de se regrouper. C'est une méthode américaine pour les consommateurs, ce qu'on appelle les action class. Pourquoi finalement ça ne s'est pas passé dans la loi? Ça n'est pas légal aujourd'hui. Des femmes ne peuvent pas se mettre ensemble pour faire une action collective sur des inégalités salariales.
Non, il y a deux projets de loi qui sont encore en cours à l'Assemblée nationale, enfin de propositions de loi. Mais dans la loi sur l'égalité telle qu'elle va être formulée là pour 2014, ce principe n'a pas été finalement retenu. C'est très complexe à mettre en œuvre, mais il y avait une opportunité, me semble-t-il, de réfléchir à cela, parce que ce que j'ai constaté dans les cas que j'ai suivis, c'est que c'est tout de même pas, je parle du parcours des combattantes pour arriver à démontrer, à décrypter la discrimination salariale. Il faut non seulement trouver des exemples de collègues pour pouvoir se comparer, mais il faut aussi remonter dans le temps pour ce qui est de la carrière. Alors, donc c'est difficile.
Ceci dit, il y a eu une pression du patronat en France pour que cette possibilité de faire des actions de groupe ne soit pas légale. En pleine récession économique, est-ce que Christiane Robichon, c'est réaliste de songer à rééquilibrer les salaires pour les entreprises?
Alors, je pense que c'est très réaliste et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a aujourd'hui des études très sérieuses qui ont été faites par des économistes américains et qui démontrent que plus le pouvoir d'achat des femmes sera important, et ça a un impact directement sur le PIB du pays.
Ah, vu donc, comme ça, effectivement, oui. Il fallait y penser. Vous restez avec nous, Rachel Silvera et Christiane Robichon. On va s'éloigner un tout petit peu de la question des salaires. Je voudrais vous faire entendre un reportage. Certains hommes réclament en ce moment plus d'égalité hommes-femmes dans leur entreprise. Ils sont jeunes, cadres dans des grandes sociétés. Ils revendiquent un nouveau rapport au travail. Ils ont institué dans leur entreprise ce qu'on appelle des cercles happy men. Je ne sais pas si vous connaissez, littéralement des cercles pour hommes heureux. Charlie Dupio a assisté à l'heure du déjeuner à une réunion Happy Men dans la tour d'une grande banque, autour de la table. 18 requins de la finance en costume cravate, enfin pas tout à fait.
Merci à tous d'être présents, je me présente François Mélini. Bon appétit, mangez. Les hommes, vous allez être motivés non pas parce que je vais vous dire c'est cool si vous rentrez plus tôt, vous allez pouvoir changer les couches de votre fille. Ce qui semble nous motiver, c'est... vous êtes meilleur. Je serai meilleur professionnel si je suis meilleur père ou homme.
Bonjour, je m'appelle Guillaume Dangle, je travaille donc en salle de marché, un milieu réputé assez macho et je suis marié, pas encore d'enfant.
Bonjour, pardon, alors je suis Charles Gredel, je travaille en salle de marché, j'ai en charge une équipe de vente, je suis le père d'une petite fille de 10 mois. Ma femme travaillait avant la grossesse, elle ne travaille plus aujourd'hui et je pense qu'il faudrait qu'elle travaille et pour ce faire, je dois libérer du temps par rapport à mon travail. Je ferai tout ce que je pourrais pour venir le plus souvent possible.
C'est pas un cercle d'alcooliques anonymes, hein, c'est juste une occasion pour se remotiver, parler, écouter. Mais c'est vous, tout seul dans votre coin, qui allez faire un engagement concret et réaliste. Exemple, hein, relever une réflexion sexiste, rentrer un peu plus tôt, ne pas faire de réunion après 18h au bureau. Même quand parfois on part un peu plus tôt ou je sais pas quoi, vous le voyez bien, même en salle. Ah, t'as pris ton après-midi, c'est complètement con, mais ils sont jaloux parce qu'eux ils sont cons, ils bossent encore. Alors que vous avez le courage de partir plus tôt.
Je suis Alban Touron, je suis gestionnaire de carrière chez BNP Paribas.
Ma fille était malade hier soir et mon épouse m'a dit « Bon, il faut que tu poses un jour enfant malade si demain elle va pas mieux. » Et j'ai dit « Ben, je peux pas, c'est pas prévu, je n'ai pas anticipé, là, je peux pas. »
Qu'est-ce qui vous bloquait dans le fait de poser ce jour ?
J'avais l'impression de me mettre dans une situation difficile vis-à-vis de mes collègues, de mes rendez-vous, de ce que j'avais prévu dans ma journée. Après, je pense que la pression se la met peut-être un peu soi-même par envie de bien faire et de se donner des objectifs élevés par goût du challenge.
Comment vous faites pour gérer à la fois votre vie professionnelle et votre responsabilité parentale ?
J'arrive entre 9h et 9h30 et le soir, je peux partir sur les coups de 19h, 19h30. Généralement, effectivement, j'arrive au moment où les enfants s'apprêtent à se coucher, ce qui me fait un petit moment avec eux, la lecture du soir, etc. Maintenant, le matin, c'est moi qui les emmène à l'école, donc j'ai un moment privilégié que je perds le soir, mais que je récupère le matin. Où mon épouse, elle, pour le coup, va commencer sa journée de travail beaucoup plus tôt.
C'est une sorte de contrat que vous avez passé avec votre femme ?
Plus qu'un contrat, c'est une organisation. Je pense que chaque couple trouve son organisation et essaie de fonctionner du mieux possible. Savoir s'aménager des temps avec mes enfants, des temps où on est tous les deux aussi, et puis des temps où on est concentré à notre travail aussi, parce que c'est important.
Je suis Vincent, j'ai 39 ans et je travaille dans la banque d'investissement. Je suis père de famille, j'ai deux enfants, 5 ans et 2 ans. On va prendre l'exemple d'aujourd'hui. J'ai déposé mes enfants à la crèche et à l'école. Je suis arrivé vers 9h15 au travail et je partirai vers 18h pour aller les chercher.
C'est plutôt tôt pour un cadre dans une entreprise ?
Ouais, 18h c'est assez tôt, je fais partie des premiers à partir le soir. Je pense quand même que la famille passe avant tout. Mon papa travaillait beaucoup et tard, ma maman travaillait à mi-temps pour s'occuper de nous et nous récupérer à l'école. Déjà, le mi-temps, c'était déjà pas mal. Mais ça me semble naturel aujourd'hui d'être dans un statut d'égalité avec ma femme. Ceci dit, même à 39 ans, j'ai l'impression d'être encore hors norme. Si je compare à mes collègues ou à mes amis, la majorité d'entre eux suivent encore un schéma assez classique. Le mari qui prend plus de responsabilités, qui travaille plus tard, et la femme qui est souvent reléguée, même si j'aime pas ce terme, à des postes de moindre importance, consciemment ou inconsciemment. Comme quoi la génération fait pas tout non plus.
François Mélini, vous êtes l'un des référents Happy Men qui avait animé ce cercle. L'un des arguments que vous avez soulevé pendant cette réunion, c'est le fait que de savoir mieux gérer l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ça va leur permettre d'être plus efficaces dans leur travail. Pourquoi est-ce que vous faites appel à cet argument-là ?
Être plus efficace dans son travail est un argument qui plaît aux managers et aux cadres, et c'est pour ça qu'on l'utilise. Ce qui les pousse à être efficaces, c'est parce que c'est des mecs, et ils sont dans une société où... qui pousse à être le meilleur, toujours, et le plus efficace, le plus organisé. Donc on a commencé par les cadres. Si on arrive à faire changer le comportement, si nous changeons nos comportements par le haut, ça donnera un bon exemple de quelqu'un qui serait plus technicien ou à un niveau hiérarchique plus bas. 70% des gens considèrent qu'il n'y a pas de discrimination.
Discrimination homme-femme.
Homme-femme. Donc ces gens-là, ils disent, mais c'est quoi le problème ? Pourquoi tu veux faire une réunion sur le sujet ? Tu fais ça pour te faire bien voir ? Quoi, ils n'ont rien compris encore. Simplement, nous, on sent le devoir et le droit de dire aux gens, posez-vous cette question-là. Est-ce que tu penses que c'est bien de rentrer à 22h et de ne pas avoir vu tes enfants, ta femme ? Et l'idée, c'est que si ça marche très bien, parce que si on n'est que 20 à être convaincu du sujet, c'est un peu dommage, vous allez s'aimer. Allez au boulot.
Merci.
Je vous en prie.
Merci François.
De rien.
Alors, une nouvelle génération est en route ou pas, Rachel Silvera ?
Alors les nouveaux pères, on les attend depuis longtemps. Régulièrement, on a des enquêtes qui nous annoncent l'arrivée des nouveaux pères. Hélas, statistiquement, on les trouve pas. Mais il y a des cas toujours intéressants comme ceci, hein, d'hommes qui prennent conscience de cette situation. C'est souvent à la naissance d'un enfant qu'il y a un déclic qui se fait. Ils souhaitent sincèrement changer la donne, consacrer plus de temps à leur vie de famille, voire à eux-mêmes ou à leur couple. Mais le problème, et je crois qu'il faut quand même revenir là-dessus, c'est que l'organisation du travail, l'entreprise a quand même, je vais pas dire le dernier mot, mais tôt ou tard, à un moment donné, va reprendre la main dans cette affaire.
Et a une responsabilité, donc.
Elle a une grosse responsabilité.
Et je crois,
Christiane Robichon, voilà. Vous,
et je crois effectivement que ces nouveaux pères, dans le monde, dans le secteur informatique dans lequel je travaille, on en rencontre de plus en plus, parce qu'il y a la prise de conscience qu'ils veulent aujourd'hui profiter et éduquer leurs enfants.
Mais sont-ils pris au sérieux au niveau de leur propre carrière, du coup, ou pas?
Exactement. Alors, on s'est pris au sérieux dans la mesure où, encore une fois, je répète, les nouvelles technologies permettent de travailler différemment, et surtout là où je vous rejoins, Rachel, c'est que ça a un impact sur l'organisation du travail dans l'entreprise. Et qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de grandes entreprises, et là c'est partout dans le monde, qui décident de ne pas avoir de réunion avant 9h et qui décident de ne plus avoir de réunion après 17h30. Pour que, en fait, la parentalité soit prise en compte vraiment dans l'entreprise. Et ça, je crois que c'est un point très important. Il faut que la parentalité rentre dans l'entreprise.
Merci en tout cas à toutes les deux. Christiane Robichon, présidente de la Fédération française Business and Professional Women. Il y a un site internet qui est noté, qu'on va noter sur la page de 7 milliards de voisins. Et 7 avril, ne pas oublier.
Et le 7 avril, retrouvez-nous, voilà, dans toutes les villes de France, rencontrez, venez discuter.
Et du monde. Et du monde. C'est la journée internationale de l'égalité salariale dans le monde. Rachel Silvera, économiste, vous publiez Un quart en moins, des femmes se battent pour en finir avec les inégalités de salaire aux éditions La Découverte. Et c'est aussi un guide pratique pour celles et ceux qui sont intéressés par des batailles juridiques, futur ou politique. Demain, sujet éducation, comme chaque vendredi, comment choisir son orientation, quel conflit dans les familles. Appelez-nous tout de suite si vous êtes parent ou lycéen désespéré et en désaccord avec votre père, par exemple. C'est Anastasie Tudiège qui présentera l'émission. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Jessica Taïeb, Romain Dubrac, Jérémy Bessé. Et pour toutes vos réactions, vous savez que vous pouvez à tout moment nous écrire à notre adresse électronique 7milliards@rfi.fr et réécouter en toute liberté nos émissions en podcast sur le site de RFI.fr. À demain.